Bonjour Raymond Richard au micro, eh bien, nous avons la joie de nous retrouver pour cette nouvelle saison 2018-2019 pour l'émission Bienvenue en Europe. Et puis c'est une année importante puisqu'il va y avoir à l'issue de 2019 les élections européennes auxquelles tous les citoyens sont conviés. Donc nous nous en réjouissons et nous pensons qu'il est très très important que chaque citoyen prenne conscience qu'il a une double nationalité, si j'ose dire, une nationalité française et une nationalité européenne. Et qu'en ce monde où chacun, disons, se replie sur son petit territoire, le territoire de sa commune, de son association, va chercher ses informations sur son propre réseau, eh bien, il est très important de redécouvrir aussi qu'on est solidaire d'un ensemble plus vaste, et notamment l'ensemble européen. Alors, après cette ouverture, eh bien, nous allons nous retrouver avec Michel Bourges-Monnery.
Bonjour.
Merci d'être fidèle à Radio Grand Ciel et de créer cette émission qui parle de l'Europe. On n'est pas tout seul maintenant, mais quand même, c'est important. Alors, de quoi parlons-nous pour cette rentrée ?
Alors, pour cette rentrée, il y a évidemment sur la table, comme d'habitude, pas mal de dossiers. Je vais essayer de les passer en revue très brièvement et puis nous pourrons essayer d'en
approfondir sur quelques-uns.
L'un ou l'autre. D'abord, pour essayer de placer le cadre, il faut savoir qu'il y a, comme chacun sait, une présidence tournante au niveau de l'Union européenne, qui est la présidence au niveau du Conseil des ministres. Donc ce sont les États, avec leurs ministres, qui se retrouvent à Bruxelles, précisément, pour participer à l'élaboration de la législation, en tout cas des décisions au niveau européen avec le Parlement européen. Donc cette présidence tournante, c'est l'Autriche qui l'assume depuis le 1er juillet et jusqu'au mois de décembre 2018. Après, c'est intervenu après la Bulgarie. Et après, ce sera la Roumanie, si je ne...
La Roumanie, en effet, après la Finlande,
voilà.
En 2019.
Donc ça, c'est première chose, c'est le cadre. Alors après, il y a toute une série de choses qui sont sur la table, comme on le disait tout à l'heure, avec un certain nombre d'événements. Et au niveau des dates, il y a eu, comme vous savez, notre président français Macron, qui a un peu fait le tour d'un certain nombre de capitales européennes pour essayer de préparer précisément l'élection à venir du Parlement européen l'année prochaine, et qui est un moment très important, et les préparatifs le sont évidemment, tout au moins on peut l'imaginer. C'est dans ce cadre-là qu'il a rencontré Mme Merkel à Marseille le 7 septembre, et ils ont passé en revue un certain nombre de dossiers qui étaient évidemment sur le devant de la scène. On y reviendra le cas échéant. Citons que, toujours au mois de septembre, il y a, dans le cadre de l'Union, le président de la Commission européenne qui fait un discours, et ceci, c'est le 12 septembre,
Monsieur Juncker.
Monsieur Juncker, sur l'état de l'Union, on pourra en toucher un mot éventuellement tout à l'heure. Le 11 septembre, un jour avant, c'est-à-dire au moment même où nous enregistrons cette émission, pour ne rien vous cacher, il y a la Hongrie avec Monsieur Orban qui va plancher devant le Parlement européen pour faire face aux accusations qui lui sont faites de violation de l'état de droit par rapport au droit européen et par rapport aux valeurs fondamentales qui sont dans les traités. Donc ça, c'est un cadre. Ensuite, il y a d'autres dates au mois de septembre. On a eu le 9 septembre une élection importante en Suède. On sait que là, c'est la montée des populistes qui est évidemment le sujet auquel chacun regarde de près.
Oui, mais regardons les choses positives. Ils pensaient 25%, ils sont à 17%.
Tout à fait. Ils sont beaucoup moins que ce qui était prévu. Donc c'est quand même une excellente nouvelle. Mais il y a sous-jacent, évidemment, ce sujet qui se fonde sur les craintes, justes ou pas justes, de l'immigration. Donc ça, c'était le 9 septembre. En octobre, il y aura également des élections qui vont être importantes, en Lettonie, 6 octobre, en Bavière, là, il faudra regarder ça de près, c'est le 14 octobre, parce que c'est la dimension CSU, vous savez, c'est un peu la branche de droite de la CDU, et puis par rapport à l'AFD qui est le courant d'extrême droite, donc c'est une élection assez importante. Il y aura d'ailleurs le même jour, 14 octobre, des élections locales en Belgique, mais qui ont une valeur importante également aussi au Luxembourg. Le 28 octobre en Hesse. Donc il y a toute une série d'élections qui sont à venir et on pourra les aborder au fur et à mesure qu'elles dévoileront leurs résultats. Parallèlement à ceci, il y a le Conseil européen qui se tiendra le 20 septembre à Salzbourg, donc sous présidence autrichienne, et qui sera essentiellement consacré à la crise migratoire. Là aussi, on pourra également toucher un mot tout à l'heure. L'élection du Parlement européen qui est en préparatif, on en disait un mot il y a un instant, avec déjà des candidats pour la présidence, non pas du Parlement, mais de la présidence de la Commission européenne, puisque c'est en principe le parti qui arrive en tête à ces élections, qui propose un président pour la Commission européenne.
Et puis démocratiquement, c'est celui qui gagne les élections qui est appelé par le président.
C'est ce qu'on appelle
président.
Le Spitzenkandidat.
Oui.
Il y a déjà un qui est en lice, qui est soutenu par Mme Merkel, et qui est évidemment un Allemand, et qui est président du groupe PPE au Parlement européen. C'est M. Manfred Weber. Or, il se trouve que ce Manfred Weber, qui autrement n'est pas du tout connu sur le plan européen ni international, n'a jamais eu des fonctions importantes nulle part, sinon au niveau du Parlement européen. Il fait partie de la CSU, donc c'est la partie droite-droite, très très libérale, ultra-libérale, des conservateurs allemands. Donc cela fait déjà un peu frémir certains, et notamment en France, où on se dit que ce n'est peut-être pas aussi démocratique qu'il n'en paraît, le fait de soutenir celui qui arrivera en tête, le parti qui arrivera en tête des élections européennes, et que parce que d'ores et déjà, si on fait les décomptes, c'est forcément le PPE sortant qui devrait avoir la place en quelque sorte de la succession de M. Juncker. Donc certains disent non, il faudrait que ce soit les États ont quand même leur mot à dire pour qu'il y ait en tout cas un panachage ou quelque chose. Donc ceci est à voir, mais c'est un grand débat qu'on a déjà eu au moment de l'élection de M. Juncker, puisque c'est le Parlement qui a eu le dernier mot par rapport aux États. Ce sont quand même les États qui décident, au final.
Oui, mais je me souviens quand même, quelque chose qui me paraît important par rapport à ça, c'est que pour les membres de la Commission, puisque finalement chaque pays a un représentant dans la Commission, il y a un représentant de chaque pays, finalement, il y a, entre guillemets, un examen d'entrée de ces commissaires européens par le Parlement, et ce n'est pas un examen, formel.
Ah,
c'est
tout à fait,
une véritable...
Il y en a plusieurs qui ont été
recalés. Véritable mise en cause de ce que vous avez fait dans votre pays, vos compétences sur le domaine que vous voulez représenter ou dans lequel vous allez être responsable. Donc il y a là quand même quelque chose de sérieux. Et puis par rapport à l'aspect démocratique de l'Europe, puisque là du coup ça ouvre à cela, ben, rappelons qu'aujourd'hui en septembre est présentée cette demande élaboré par les citoyens, de garantir de l'espace pour les animaux qui sont en cage. Alors, quelque part, ça me fait sourire, parce que je me dis, bon, est-ce qu'on a besoin du vote des citoyens de plusieurs pays pour ça ? Mais en attendant, ça veut dire que sur les sujets qui les intéressent, les citoyens peuvent s'exprimer et obtenir que l'affaire soit prise en compte par la Commission européenne. Donc, quand même, là, je me dis, l'initiative législative, là, elle appartient au peuple, qui la délègue à ses députés, mais elle peut lui appartenir au point, puisque là, on a l'exemple de préoccupations populaires qui arrivent jusqu'au bureau de la Commission. Alors, je ne dis pas que c'est fantastique, mais en attendant, ça veut dire qu'il y a un processus démocratique qui marche au niveau européen.
Tout à fait. Ça, vous avez tout à fait raison de souligner qu'on ne se rend pas assez compte en tant que citoyen. Généralement, on ne se rend pas compte
du poids qu'on peut avoir.
Du poids que l'on peut avoir et aussi de l'importance que l'Europe peut avoir aussi sur nos vies, et ne serait-ce que sur un plan non pas uniquement pratique, mais aussi global. Et là, on rejoint également le dossier, d'autres dossiers qui sont sur la table, notamment du Parlement européen ces jours-ci. On peut y revenir éventuellement sur les droits d'auteur, par exemple. C'est à la fois très technique, mais en même temps, c'est tout à fait concret. Et ça se décide au niveau européen pour essayer d'améliorer les choses au plan national. Donc il y a toute une série de choses comme celle-là, comme celle que vous venez de souligner, qui ont leur importance. Et c'est à chaque citoyen, et notamment à travers les consultations citoyennes, dont j'espère
dont on
que les
va parler aussitôt après la
ont
pause.
Entendu parler,
voilà.
Et on y reviendra.
Dans l'émission Bienvenue en Europe, avec M. Michel Bourges-Monnery. Alors, une question qui a beaucoup chatouillé les citoyens, et puis les médias, et on en parle, et on le met ça sur la table en disant « c'est l'Europe, c'est la question migratoire ». Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de rappeler qu'au moment où on a pu, ici à Chartres, interroger M. Giuliani, qui est président de la Fondation Robert Schuman, je me souviens, quand je lui ai posé cette question, il m'a dit « Mais madame, c'est du ressort de chaque pays. La chancelière Merkel, elle mène la politique, une politique allemande qui intéresse les Allemands parce que cela ne fait pas partie du paquet commun, comme la politique agricole commune, par exemple. » Et maintenant, on voit que devant les crises, lorsqu'il s'est agi de recevoir les errants de la Méditerranée sur tel ou tel bateau, l'Europe a dit ben, on va aider les pays à recevoir les gens. Donc ça veut dire qu'en fait, pour les choses épineuses, il y a une espèce de transfert qui se fait dans les faits des autorités nationales aux autorités européennes en disant ça c'est vraiment un truc sale, on ne veut pas s'en occuper. Et je pense que quand même, est-ce qu'on peut laisser les gens aller se noyer dans la Méditerranée? Enfin, une question.
En tout cas, pour essayer d'y répondre indirectement, il y a, vous avez très bien souligné, c'est d'abord l'affaire des États. Mais évidemment, cette opération migratoire, ces flux migratoires, du fait des guerres que l'on connaît du côté...
Et puis de la géographie, la Méditerranée,
etc.,
elle borde les pays d'Europe.
Il y a eu évidemment des vagues migratoires importantes, surtout autour des années 2015. Donc maintenant, les flux ont beaucoup baissé. Mais c'est d'abord un élément national. Pourquoi également l'Europe? C'est surtout aussi parce que l'Europe, c'est une unité au niveau non seulement du commerce, mais aussi des échanges, de la liberté de circulation.
Des frontières.
Et des frontières. Et il y a évidemment derrière tout cela les accords de Schengen. Il y a donc un paradoxe qui fait que, d'un côté, c'est du ressort national, mais comme les frontières sont ouvertes, il faut bien qu'il y ait une entente au plan européen pour essayer de les contrôler. C'est donc normalement, selon les accords, et notamment ceux de Dublin, que chaque pays qui reçoit des flux migratoires de l'extérieur doit d'abord les traiter chez lui. Et ensuite, on voit ce qui peut se passer. Et c'est là où il y a un problème, parce que d'une part, on ne fait pas toujours la différence entre le droit d'asile, qui là est inscrit comme des valeurs fondamentales au plan européen et évidemment international, on se doit d'y répondre, droit de l'homme, les flux migratoires à caractère commercial, et souvent ce sont des gens qui arrivent de manière illégale. Donc il y a une différenciation à opérer. Or, lorsque la question a commencé à se faire vraiment de manière importante sentir au plan européen, la Commission européenne, très logiquement, a proposé un accord entre tous les pays en disant « Écoutez, on va essayer de se répartir ces flux ». En fonction évidemment du droit d'asile.
Et tout le monde a crié
et,
en frappe.
Et là, plus personne n'a voulu savoir quoi que ce soit. Et, ou en tout cas, certains pays ont dit non, tout à fait. Et là, on a les pays de l'Est, notamment ce que l'on appelle les pays de Visegrad, avec la Pologne en tête. Et puis, plus à l'Est, la Hongrie, qui elle a dit de toute façon, il n'est pas question de recevoir même un seul migrant, donc même pas une question de répartition. L'Italie, elle, a dû faire face, compte tenu de la géographie, et la Grèce, et puis maintenant un peu aussi l'Espagne, à des flux migratoires qui débarquaient dans ces pays, compte tenu de la géographie, et sans que les autres essaient de leur venir en aide. Donc il y a un paradoxe qui explique largement ce qui s'est passé aux élections italiennes récentes. Donc voilà où on en est. Alors maintenant, il se trouve que la présidence autrichienne, qui est, entre parenthèses, gouverné, en tout cas le gouvernement autrichien dirige le pays, l'Autriche, et de manière, il n'aime pas du tout les flux migratoires, comme les Hongrois, d'autant plus que dans leur propre gouvernement, il y a l'extrême droite qui en fait partie. Or, la présidence autrichienne de l'Union européenne, évidemment, organise des débats maintenant pour essayer de dire « on va stopper tout ça ». Et à Salzbourg, le 20 septembre prochain, il doit y avoir une réunion du Conseil européen où on va essayer de trouver des solutions pour essayer de protéger les frontières extérieures. Alors il y a eu beaucoup d'argent maintenant qui a été mis en place pour essayer de consolider les frontières extérieures, mais ça ne suffit pas manifestement. Et il y aura toujours le problème de savoir qu'est-ce que l'on fait, comment est-ce qu'on se répartit les charges, etc. Donc tout ce débat va être sur la table et il n'y a pas beaucoup de monde au stade où on se trouve de notre enregistrement pour penser qu'il va y avoir un accord déjà le 20 septembre. Mais enfin, on peut toujours espérer parce que même dans ces pays-là où l'extrême droite est présente, ou en tout cas une influence forte, eh bien, il n'est pas question jusqu'à présent, en tout cas, ils se rendent compte qu'ils font partie quand même d'un ensemble dont ils n'auraient sans doute pas intérêt à en partir. Et donc ils ne remettent pas nécessairement l'Europe en question, mais ils veulent en quelque sorte figer cette affaire migratoire sans accepter. C'est-à-dire, en quelque sorte, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, comme toujours dans ces affaires-là. On ne veut pas de migrants, on veut bien que les autres en s'en occupent, mais pas nous. Mais il faut quand même avoir un ensemble de solidarité, puisqu'on a une frontière commune, et l'Europe est un ensemble avec des frontières extérieures, et il faut défendre ces frontières. Alors il y a eu des accords qui ont été trouvés avec la Turquie, etc. Bon, il y a eu des plans qui ont été faits au niveau développement, au niveau économique. On a maintenant sur la table des projets où il y aura des centres d'accueil ou de tri également dans les pays de départ. Bon, il y a toute une série de choses sur la table. Chaque pays dit
essaie de se passer la patate chaude à l'autre.
C'est le voisin à côté, etc. Mais il y a bien un moment où il faudra arrêter ce petit jeu-là. Mais malheureusement, quand on a ceci sur la table, les peurs, généralement tout à fait exagérées au niveau des populations, où l'on fait croire que l'Europe va perdre son identité, qu'on va être complètement envahi et que l'Europe ne sera plus l'Europe, et nos pays, à commencer, ne seront plus nos pays d'origine. Cette peur est évidemment soulignée, mise en avant, exploitée par les courants d'extrême droite, parce que évidemment ils espèrent ainsi pouvoir gagner les élections. Et alors, ce qu'on voit, que même en Italie où ils l'ont gagné, eh bien, ils n'ont pas été jusqu'à dire on va quitter l'euro, on va quitter l'Europe, etc. Ils se rendent bien compte que même quand ils sont aux commandes, il va bien falloir trouver un accord avec les autres partenaires. Donc c'est la petite fenêtre d'espoir qui nous reste, mais ceci sur un fond qui marque l'état d'esprit de chaque citoyen et qui aura une influence sur l'élection du Parlement européen l'année prochaine. Et là, on pourra y revenir.
Alors, je crois aussi qu'on peut poser quand même la question, qu'est-ce qu'on veut comme humanité? Est-ce qu'on veut une humanité qui laisse les gens se noyer en Méditerranée, qui va en Afrique chercher le coltan, les métaux rares, l'or, etc., mais qui ne veut absolument pas de population africaine, qui laisse aller le climat tel que sans prendre les décisions un peu courageuses qui s'imposent pour remédier au réchauffement climatique ou essayer en tout cas de le ralentir, alors on sait que de toute façon, les réfugiés climatiques, il va y en avoir. Et puis là, tout le monde se pose la question, mais en Syrie, on ne peut pas laisser faire. Ben, si, alors il faudrait savoir, si on ne peut pas laisser faire en Syrie, ça veut dire qu'il va y avoir des réfugiés syriens qui vont arriver de nouveau. Donc je crois que là, il y a aussi peut-être à ce que chacun d'entre nous et chaque citoyen ben, se dise, voyons, que veut-on? Est-ce qu'on laisse les gens se noyer en Méditerranée? Est-ce qu'on va vraiment aller en Syrie ou est-ce qu'on les laisse aux mains d'un dictateur qui assassine son peuple? Enfin, je crois que là, on ne peut pas à la fois vouloir à la fois intervenir et puis ne pas tenir compte des effets, ce qu'on appelle gentiment les effets collatéraux des interventions militaires. Là, je crois qu'il y a quand même aussi, fondamentalement, indépendamment de Europe par Europe, frontière par frontière, pays comme ci ou comme ça, il y a quand même une question humaine.
Ah oui, ça, la dimension humaine, on l'oublie souvent. Au départ de la construction européenne, c'était quand même l'humanisme.
Et l'humanisme chrétien. Et il me semble qu'il y a une question qui est, qu'as-tu fait de ton frère étranger?
Tout
à fait. Et puis, j'ai été étranger et vous m'avez accueilli. Enfin, là, il me semble quelque chose qui est fondamentalement du ressort de la culture européenne. Et puis, du coup, ça va me faciliter le passage vers la question de l'Europe du patrimoine, puisque il va y avoir, il y a eu récemment les journées du patrimoine, et on parlait pour ces journées du patrimoine d'un patrimoine partagé. Ça veut dire qu'en fait, d'un bout à l'autre de l'Europe, on retrouve l'art roman, on retrouve les cathédrales gothiques, on retrouve donc des choses sur lesquelles les nationalistes les plus enragés disent « ça fait partie de notre patrimoine ». Donc, il me semble que là, il y a une dimension culturelle à l'Europe, ces racines qui sont des racines romaines, grecques, chrétiennes. Enfin, je crois que là, il y a quand même une réalité qui me paraît importante de rappeler, puisque quand l'émission passera, les journées du patrimoine seront faites, mais il y aura ensuite Erasmus. Et là, on a encore, c'est un personnage de la culture européenne, c'est un grand de l'Europe.
Oui, tout à fait. Non, et ça, c'est quelque chose qu'il faut généralement rappeler, mais il ne faut pas le rappeler avec un esprit, comme certains le font malheureusement du côté de l'extrême droite, pour se replier sur soi à travers un repli identitaire malsain. C'est-à-dire que cette culture, ce patrimoine, on l'a en partage, et également dans un esprit de solidarité et d'échange. Et donc, sans nécessairement rejeter tout ce qui pourrait être en dehors de cela. L'Europe continentale, l'Union européenne, se base évidemment sur ses valeurs fondamentales, au-delà même de la dimension géographique, et vous avez eu tout à fait raison de le souligner. Et n'oublions pas, effectivement, que la dimension chrétienne était très importante au départ à travers des hommes comme Robert Schuman, Adenauer, De Gasperi, etc.
Et alors des personnes, mais aussi bon, des monuments on a évoqué, mais aussi quand on parle d'Erasmus de Rotterdam, si je ne m'abuse, Erasmus était installé à Rotterdam parce que là, c'était le lieu de la liberté pour toute l'Europe.
Tout
donc
fait.
Ça aussi, c'est quelque chose que on a, si on a pris ce personnage pour signifier l'importance des échanges entre les jeunes de toute l'Europe, ça a quand même du sens. Erasmus de Rotterdam, c'était là où on a la liberté d'écrire, de penser, de quelque chose
à
qui
une
est
époque
à partager aujourd'hui.
Où des États, notamment en France, étaient tout à fait autoritaires et ne permettaient pas de publier n'importe quoi qui aurait été contre les vues du pouvoir en place. Donc c'était une belle leçon de liberté et qui continue à travers ce programme, ce beau programme d'échange des jeunes. Et donc là aussi, on rejoint cette dimension des citoyens et de cette Europe des citoyens qui est aussi importante à nos yeux et qui également devrait déterminer le futur de l'Europe. Donc là, peut-être, on pourra aborder le point des consultations citoyennes, puisque
voilà,
dans notre
pour terminer, effectivement,
propre département,
consultations citoyennes.
Il y a des éléments qui se sont effectués. Il y a eu un certain nombre de consultations citoyennes qui ont été faites. Donc rappelons simplement d'un mot que ces consultations, c'est une opération libre pour tout citoyen de pouvoir débattre avec d'autres dans sa commune, dans sa localité, ailleurs, avec d'autres, pour se dire ben, quel est le projet d'Europe que nous, nous aimerions avoir, qu'est-ce qui ne marche pas en Europe actuellement, qu'est-ce qu'il faudrait changer, etc.
D'ailleurs, le mouvement européen d'Eure-et-Loire, que vous pouvez rejoindre, vous permettra de compléter la réflexion, si vous le souhaitez. Et il va de soi qu'il y a, d'ici les élections européennes, des consultations citoyennes auxquelles chacun peut se référer. Et rappelons que Radio Grand Ciel va diffuser les propos de M. Jean Arthuis dans la conférence « Quel avenir pour la France en Europe ?». Donc c'est quelque chose à suivre sur Radio Grand Ciel, qui s'ouvre largement aux questions de l'Europe. Alors pour finir, Brexit, de quoi parle-t-on maintenant ?
Mais on apporte, au niveau du Brexit, on aborde la dernière ligne droite, droite en quelque
Alors
sorte.
On voit qu'en Angleterre, il y a des remous.
Il y a des remous de tous les côtés, d'autant plus que maintenant, face à l'urgence, parce que c'est au mois d'octobre prochain que devrait être arrêté le projet de traité, s'il y en a un, entre l'Europe, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Donc là, il y a toute une série de discussions, mais restent des sujets sur la table qui ne sont toujours pas réglés.
Et des interrogations.
Et des interrogations.
Il va y avoir aussi des élections en Irlande.
Tout à fait. Et du côté irlandais, c'est ce que j'allais dire, du côté irlandais, la question n'est toujours pas résolue. Parce que rappelons simplement le fait qu'entre la République d'Irlande, au sud de l'île d'Irlande et le nord, qui fait partie du Royaume-Uni, ben, il y a une frontière qui n'existe plus et qui a justement facilité la paix entre ces deux entités qui étaient en guerre, rappelons-le, avec l'IRA, etc., pendant très très longtemps. Donc il y a non seulement une question pratique, comment faire qu'une partie de cette île va être soumise à... Il devrait y avoir une sorte de nouvelle frontière pour les marchandises, en tout cas, et les humains, etc., les quatre libertés fondamentales qui font partie intégrante de l'Union européenne, comment les faire respecter avec une frontière qui devrait ne plus être remise ? Alors, donc, la question n'est toujours pas réglée.
Donc, c'est une affaire à
suivre. C'est une affaire à suivre. Il y a le futur de cet accord qui reste à négocier, puisque du côté britannique, on voudrait bien continuer à profiter du marché unique, mais évidemment sans en avoir les contraintes. Donc, voilà où on en est. Donc, il y a une certaine tension, et plus les mois, les deux mois, trois mois qui restent, pour négocier, plus la tension monte, et on va voir, on vous dira lors de prochaines émissions où on en est, mais pour l'instant...
Mais d'ici là, vous pouvez suivre les questions d'Europe sur les sites du Mouvement européen d'Eure-et-Loire, par exemple, ou bien dans vos journaux favoris, parce que comprendre l'Europe et surtout voir quels sont les enjeux pour participer aux consultations citoyennes et puis bien sûr ultérieurement aux élections européennes. Et là-dessus, chers auditeurs, je vous dis, nous sommes bien contents de vous retrouver et on vous dit bonne semaine à tous, au revoir.